l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est le député strasbourgeois de la 3e circonscription, le député de la majorité, Bruno Studer. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Rapporteur de la loi contre la manipulation de l'information, adoptée en novembre 2018, auteur de la proposition de loi sur le contrôle parental, adoptée à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée, c'était en janvier 2022, et aujourd'hui porteur d'une proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants. Alors avant toute chose, comment dans le contexte actuel où toute l'attention est portée sur la contestation autour de la réforme des retraites, vous continuez, vous, à porter ce projet? Comment est-ce que vous continuez à étayer ces textes? Vous êtes serein?
Écoutez, en tout cas, c'est ce que je me suis appliqué à expliquer à mes concitoyens lors des réunions publiques que je fais tous les 6 mois. J'ai fait ma série au mois de janvier. D'ailleurs, le sujet des retraites avait été assez peu abordé par les gens qui assistaient à ces réunions. J'expliquais qu'on n'avait pas arrêté de travailler depuis le mois de juin, en fait, et qu'il y avait beaucoup de textes qui avaient été votés. Et là, par exemple, ces derniers jours, on a eu le texte sur les énergies nucléaires qui a été voté, avec une majorité faite de groupes différents du précédent texte qui avait été voté sur les énergies renouvelables. Encore une majorité différente du texte qui avait été... de la majorité qui avait été trouvée sur le texte sur la loi de programmation pour le ministère de l'Intérieur, et encore une autre majorité que celle qui n'a pas voté la motion de censure. Donc les choses continuent à avancer, et les sujets que je porte, effectivement, ont réussi notamment à rassembler l'ensemble des députés, puisque la proposition de loi a été votée en première lecture à l'unanimité. Donc on continue à travailler.
De vous continuer à travailler autour de ce projet de loi, c'est la continuité d'un texte qui avait déjà été adopté.
Oui, un texte qui avait été adopté en 2020, qui était la loi sur les enfants influenceurs, que j'avais déjà proposé et dont j'avais été le rapporteur, qui était là aussi une première mondiale, parce que la France, et je reviens d'un sommet sur la protection de l'enfance en ligne organisé par Google à Dublin, la France est très très regardée sur ces sujets.
Pour quelle raison ?
Pas simplement parce qu'on a pris des mesures fortes, que ce soit sur l'accès à la pornographie, sur le contrôle parental. Ouais. La loi, vous avez eu la gentillesse de rappeler que je l'avais portée à la fin du dernier mandat. Là aussi, votée à l'unanimité. La France est le premier pays à avoir voté cette obligation pour les constructeurs d'appareils permettant de se connecter, de fournir un contrôle parental préinstallé. Donc on est très regardé parce que le président de la République lui-même porte ce combat. Il en a fait une de ses priorités. Vous savez, il a été à l'origine de l'appel de Christchurch avec la première ministre néo-zélandaise après les attentats qui avaient eu lieu dans cette ville. Il a lancé un laboratoire sur la protection de l'enfance en ligne qui réunit maintenant régulièrement. Donc la France est un pays qui est regardé. Et moi, j'ai la chance d'avoir le soutien du président de la République sur ces sujets-là. Et donc, je fais avancer ce qui est... Finalement aussi un petit peu le combat que j'avais envie de mener par rapport à la carrière d'enseignant que j'avais eue, où j'avais vu concrètement comment vivaient les enfants sur Internet. Et peut-être que les adultes n'avaient pas tout à fait encore compris ce qui était en train de se passer.
Alors ce qui nous amène à aujourd'hui, alors votre proposition de loi, elle vise à garantir le respect du droit à l'image des enfants. Vous êtes parti de quel constat ?
Alors encore une fois, c'est la poursuite de la loi sur les enfants influenceurs, qui était déjà de dire, quand l'image est exploitée de façon commerciale, c'est-à-dire dans le cadre d'un travail pour faire du placement de produits, pour faire la publicité, pour faire la monétisation, on vient rappeler, c'était l'objet de la loi, que le travail des enfants c'est interdit, y compris sur Internet, et que donc l'exploitation commerciale de leur image, elle doit être encadrée. Maintenant, il y a plein d'autres cas, très précis ou plus larges, qui n'ont pas cessé de m'interroger. Alors, les cas précis, c'est par exemple la question des vlogs familiaux. Vous savez, ces familles qui se filment 24 heures sur 24 et qui filment l'enfant qui dort, l'enfant qui va au pot, l'enfant qui fait sa colère, l'enfant qui fait sa vie en permanence. Vous avez aussi un autre cas précis, les pranks, c'est-à-dire des canulars. On fait une mauvaise blague à son enfant, on le filme et puis bien entendu, ça fait rire tout le monde et ça fait des partages. Il y a des pranks, des canulars vraiment qui sont, je pense... assez problématique.
Humiliant
pour l'enfant et qui se retrouve humilié devant des millions de personnes. Parce que quand vous avez une influenceuse qui fait le prank caca Nutella à son enfant, lui faisant croire qu'elle a du caca sur les mains alors que c'est du Nutella, elle a 6 millions de personnes qui regardent ses vidéos, cette dame. Vous imaginez pour l'enfant ce que ça veut dire aujourd'hui aussi plus tard. Puis après, vous avez une question plus large qui est la question de la protection de la vie privée de l'enfant. Aujourd'hui, c'est les chiffres que j'ai donnés dans l'hémicycle. À l'âge de 13 ans, c'est 1300 images en moyenne qui existent pour un enfant sur Internet. C'est un tiers des enfants qui existent déjà sur Internet avant même d'être nés. C'est la moitié des images qui sont partagées sur les formes pédopornographiques qui ont été initialement publiées par les parents. Et donc, on aborde là la question des mésusages de ces images. Mésusage, ça peut être le harcèlement, ça peut être le détournement avec des caractères à des fins pédopornographiques. Ça peut aussi être, et c'est un gros problème, et ça les gens n'ont pas du tout en tête, l'usurpation d'identité. Demain, les enfants seront les premières victimes des usurpations d'identité. Donc, il me semblait important de rappeler qu'une des grandes missions, au fond, du parent du 21e siècle, c'est de protéger la vie privée de son enfant, et notamment sur Internet.
On a le recul nécessaire maintenant entre le moment où ces enfants sont apparus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quelques années plus tard, peut-être 10 ans déjà, on voit les méfaits psychologiques sur la personne. On peut le mesurer, ça?
Comme vous l'avez dit, c'est extrêmement récent. Mais ça va être mesuré, à mon avis, très rapidement, comme on a pu le voir sur les enfants stars, d'ailleurs. Hein. Vous savez, au fond, ce qui est il y a un problème, c'est celui de la popularité. La popularité, c'est très bien quand elle est là. Quand elle disparaît, ça peut interroger, y compris pour un adulte. Alors imaginez ce que ça peut faire pour un enfant. Parce que du coup, vous étiez aimé, vous n'êtes plus aimé. Et pourquoi ? Donc du coup, ça pose aussi la relation de qu'est-ce qu'ils font de la relation que j'ai avec mes parents ? Et au fond, c'est qu'est-ce qu'on va me permettre comme oubli de ce que j'ai été plus tôt ? Bah, plus rien. Si on a sur Internet, on peut retracer l'historique de votre caractère. Vous étiez colérique, vous étiez ceci, vous étiez cela. Enfin, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Et je pense qu'on a des problèmes à venir. Et d'ailleurs, les juges aux affaires familiales que j'ai pu rencontrer pour parler de ce projet sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur cette question de la vie privée et donc de l'image de l'enfant. Parce que quand on parle de l'image, souvent les gens me disent « Oui, mais bon, on partage le visage, etc. » Non, vous ne partagez pas que le visage. Vous partagez le nom du doudou, vous partagez le trait de caractère, vous partagez le problème de santé. Est-ce que vous allez mettre une de vos échographies à vous sur Internet ? Non, par contre, celle de son enfant dans le ventre, on la met. Mais c'est du secret médical. En tout cas, je pense qu'il y a une nécessaire prise de conscience. Et c'est normal parce que c'est nouveau. Et la nouveauté appelle une prise de conscience.
Et l'invisibilité sur Internet n'existe pas. Il n'y a pas un moment où on peut se dire « j'enlève tout ce qui a été posté sur moi à un moment ». Ce n'est pas possible.
Bah, vous pouvez essayer. Vous pouvez même, bon courage, vous pouvez payer des gens qui vont faire un très très bon travail, mais à un moment donné, c'est un leurre quand c'est sur Internet, c'est sur Internet pour toujours. Les gens me disent, par exemple, cette image, je l'ai effacée, oui, mais si quelqu'un en a fait un partage écran. C'est par exemple une grande discussion qu'on a avec les jeunes qui ont des pratiques que nous, on n'aurait même pas imaginées à leur âge, c'est s'envoyer des nudes, vous savez, des photos de soi nues.
Oui.
Moi, je dis souvent, c'est pas grave si j'envoie un nudes à mon petit copain ou ma petite copine. Bah, oui, mais dans 6 mois, ce sera peut-être plus ton petit copain ou ta petite copine. Et il n'aura pas forcément un élan de bienveillance envers toi, selon la façon dont vous avez rompu. Donc, fais attention, en fait. Mais ça, ce sont des habitudes un peu nouvelles. Vous savez, c'est comme... au fond, moi, j'en veux pas à grand monde. J'en veux à quelques parents qui font vraiment n'importe quoi. Et c'est pour cela aussi que je vais assez loin dans la loi, une fois qu'on a posé les principes de précaution qu'il faut prendre. Mais en soi, les parents, ils sont un peu perdus avec toutes ces nouveautés. Parce que personne ne leur a appris comment se comporter sur Internet.
On apprend ça à nos enfants avec un peu de bon sens. De pas, effectivement, mettre de photos de soi nues, de pas communiquer avec encore que les amitiés se construisent comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Et que des longues amitiés...
Bien sûr.
Et d'échanges épistolaires, effectivement, c'est un nouveau moyen de communication. On n'est plus de timbre sur
Bien
une
sûr.
Enveloppe.
Mais
oui, avec du bon sens, évidemment, une photo de soi, on ne l'envoie pas.
Ben voilà, où on ne prend pas quelqu'un comme ami sur un réseau social qu'on ne connaît pas vraiment. Alors c'est du bon sens, mais de la même façon que ne pas prendre un bonbon de la part d'un inconnu à la sortie d'école, c'est du bon sens, mais ça se transmet aussi. Et ça nécessite d'être cultivé. C'est pour ça que je pense que la loi est avant tout une loi de bon sens, en disant en plusieurs étapes, une de vos grandes missions, et on le marque dans le code civil, qui est c'est pas une loi faite pour punir. Et on rappelle aux parents qu'une de leurs grandes missions, c'est de protéger la vie privée. On leur dit que pour partager l'image de leur enfant sur un cercle au-delà du cercle familial ou amical sur les réseaux sociaux, il faut demander à l'enfant s'il est d'accord. Les gens me disent...
C'est pas contractuel tout ça ?
Non, c'est pas trop contractuel, c'est juste du bon sens.
Oui.
C'est du bon sens. Mais le code civil est là notamment pour rappeler parfois des choses de bon sens.
Ça peut permettre évidemment de revenir sur une affaire où un enfant... vous n'avez pas peur de ça, non ? D'ailleurs, de cette dérive d'enfants qui vont porter plainte un jour ?
Ah, mais je pense que... alors déjà, ça arrive déjà. Ça arrivera quoi qu'il arrive. Et là, la loi ne prévoit pas de peine particulière, parce qu'on est encore une fois sur la compétence civile et du juge aux affaires familiales. là où je vais le plus loin dans la loi, c'est que je permets au juge aux affaires familiales, qui en fera ce qu'il voudra, c'est une possibilité que je lui donne, de faire une délégation forcée de l'autorité parentale pour le droit à l'image. C'est-à-dire, en gros, on confierait, dans les cas que le juge estimera les plus graves, donc nécessitant à agir, on confierait le droit à l'image de l'enfant, qui est aujourd'hui détenu par les parents, à une tierce personne. Bah voilà, quand vous avez des parents qui font des pranks à leur enfant, est-ce qu'ils savent vraiment bien protéger la vie privée de leur enfant sur Internet ?
Mais qui va saisir le juge ?
Alors, soit un membre de l'entourage, ça peut être un membre de la famille, un parrain, une marraine, ça peut être le ministère public. Encore une fois, l'idée, c'est quand même maintenant de mettre dans la loi très clairement les choses pour qu'on n'en arrive pas jusque-là. Mais après, c'est ce que j'ai expliqué à mes collègues, parce qu'on a eu une des discussions à l'Assemblée nationale. C'est, est-ce que c'est trop sévère de dire que le juge peut retirer le droit à l'image de l'enfant ? Mais j'aurais dit, mais moi qui passe depuis maintenant 6 ans, hein, ça fait à peu près 6 ans que je travaille sur ces sujets, beaucoup de temps sur Internet pour regarder ce qui se passe, je pense qu'il y a matière pour le juge parfois à agir. Mais vous savez, on retire déjà parfois de façon partielle l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale à des parents lorsqu'ils font notamment actes de mauvais traitement ou de négligence.
Oui, bien sûr.
Voilà. Aujourd'hui, ils ont un nouveau motif pour faire cette délégation forcée d'autorité parentale. Ça n'est pas une loi qui veut punir les gens, vous voyez, parce que j'ai lu dans... Parce que c'est une loi qui a fait énormément parler. J'ai eu des retours presse dans le monde entier. Et parfois, je vois les articles de presse qui disent « La France veut interdire aux parents de publier l'image de leur enfant sur les réseaux sociaux ». Il ne s'agit pas de cela. D'abord parce que les parents restent les détenteurs du droit à l'image de l'enfant. C'est simplement leur dire que « Faites attention ». Et dans les cas les plus graves, le juge pourrait effectivement faire une délégation forcée de l'autorité parentale, mais ça sera au juge de le décider, c'est pas au législateur. Le législateur, ouais, est là pour écrire la loi. Moi, je pense qu'il fallait donner un outil en plus au juge par rapport au monde qui change aujourd'hui.
Et cet outil sera effectif à quel moment ?
Alors, comme vous l'avez dit, c'est une loi qui a été votée à l'unanimité, en première lecture à l'Assemblée nationale. Ça doit maintenant aller au Sénat. Le gouvernement a déclaré ce qu'on appelle la procédure accélérée. C'est-à-dire qu'après la lecture du Sénat, on pourrait essayer de se mettre d'accord dans cette fameuse CMP qui existe sur beaucoup de projets de loi. Hein. La commission mixte paritaire, c'est à un moment donné, députés et sénateurs vont examiner un texte, puis ils regardent s'ils arrivent à se mettre d'accord. Donc ça pourrait intervenir assez rapidement, en tout cas d'ici l'été, je pense.
Oh, donc l'idée, c'est quand même que ça aille vite et qu'elle puisse être appliquée très rapidement. Il y a une urgence. Le chantier est énorme. Hein. Vous êtes qu'au début de ce chantier du monde virtuel et de la relation des enfants dans ce monde virtuel et l'appréhension de tous ces outils.
Oui, alors pour ça, on a besoin parfois de changer la loi. Et la loi permet aussi, parce que on m'a dit, oui, mais la loi ne peut pas tout, mais la loi permet notamment du débat. Et moi, je remarque que sur ce texte-là, ça a fait vraiment réagir. Et tant mieux. Et s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, c'est normal, parce qu'il y a des gens qui peuvent estimer que je vais trop loin dans les limites que je mets à l'exercice de l'autorité parentale et qu'au fond, les parents font ce qu'ils veulent de l'image de leur enfant. Et que, bon. Très bien, bon, moi, je ne partage pas ce point de vue-là. Donc, je l'ai mis en proposition à l'Assemblée nationale. Ça a été voté. Et on est en train de voter une loi sur la majorité numérique. On est en train enfin de trouver la solution pour modérer, hein, parce qu'on n'arrivera jamais à tout empêcher l'accès aux sites pornographiques pour les mineurs. Et puis après, on a besoin du cadre européen, parce que ce sont des acteurs qui sont des acteurs mondiaux, qui respectent d'autant plus les règles qu'elles concernent finalement des aires de chalandise, hein, parce, oui, que c'est de ça dont il s'agit. Ils ont un business model. Pour eux, la France est un point dans l'Europe. Voilà. Et donc, c'est quand on a des textes européens qu'on arrive vraiment à avancer. Donc, on a eu des vraies avancées sur des directives européennes qui vont être transposées au mois de juin, normalement. Donc voilà, on continue à travailler. Et sur ces sujets-là, en très bonne intelligence avec tous les groupes de l'Assemblée nationale. Et je pense que ça aussi, c'est un message à envoyer.
Oui, c'est à saluer également dans le contexte actuel.
Après, tous les sujets ne peuvent pas être aussi consensuels. Moi, encore une fois, c'est vrai que je suis maintenant reconnu sur ces sujets-là. Pas que, mais en grande partie. Et c'était un des fondements de mon engagement politique en 2016-2017. J'avais envie de faire avancer les choses parce que mon expérience d'enseignant m'avait fait toucher du doigt ce qui était très sensible déjà dans les salles de classe à l'époque. Le complotisme, la post-vérité, la violence, accès à la pornographie. Donc ça avance et ça fait partie des petites satisfactions. Il en faut aussi quand on est député.
Bravo, bah, félicitations.
Merci.
Pour cette avancée-là. Monsieur Bruno Studer, donc je rappelle député strasbourgeois de la 3e circonscription. Merci infiniment.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.